Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Bonjour à tous, France Inter, 9h40, c'est le début de l'instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Superman à 80 ans, combi bleu, vous le reconnaissez, le torse barré de jaune, slip et cape rouge. Le personnage de DC Comics venu de Krypton n'en finit pas de décliner ses super pouvoirs au fil de l'histoire des médias, né d'un magazine de bande dessinée parvenu jusqu'aux jeux vidéo après plusieurs arrêts cinéma, dessins animés et même séries télé par deux fois. On vous raconte le super-héros au personnage de pixels et de papier glacé. Voici quelques temps, voilà, on vous le raconte que cette émission tentait l'équipe de l'Instant M et puis par hasard, voilà, coïncidence des dates, on a appris hier la mort de Margot Kidder, 69 ans, actrice canadienne qui jouait Lois dans la première saga Superman sur grand écran. Lois, eh ben oui, c'est ce que je disais, Augustin, Superman travaille dans un journal où sa Lois est photographe, Superman est donc journaliste. Lois et Clark, montrez-moi vos cartes de presse.
L'Instant M, Sonia de Villers, sur France Inter.
Bonjour Xavier Fournier.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Je vous entends merveilleusement bien et pourtant vous êtes à Lyon. Vous êtes en direct de notre bureau France Inter à Lyon et Chantal Nouvello, notre technicienne, s'occupe de vous. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous avez publié de nombreux essais. Parmi eux, Super-héros, une histoire bien française qui était parue en 2014. Vous avez déniché, Xavier Fournier, 300 super-héros bien de chez nous, des super-héros tricolores depuis le 19e siècle. On va parler dans un instant avec vous de Superman. D'abord, j'accueille Romain Nigita. Salut Romain.
Bonjour Sonia.
Grand amateur et grand connaisseur de Superman aussi. Mais Romain, comme on va se plonger quand même dans l'actualité des séries, eh ben on va faire avec vous un petit bilan. Des chaînes de la TNT au bout de 13 ans. Côté série, parce que ce soir démarre Safe, c'est une série inédite créée pour la chaîne C8. Ça n'a rien à voir avec Superman, rien à voir avec les super-héros.
Aucun lien.
On y revient après avec Xavier Fournier. Donc, série spécialement créée par la chaîne C8, par le romancier Harlan Coben.
Je suis à la recherche de Jenny, je crois qu'elle était avec Chris hier soir.
Chris a 19 ans.
Vous n'êtes pas inquiet?
Non.
Est-ce qu'il habite ici, dans cette résidence sécurisée?
Oui,
mais il n'est pas rentré non plus.
C'est donc un thriller efficace, mais sans surprise, dans lequel on retrouve tous les leitmotifs d'Harlan Coben. Une disparition inquiétante, des secrets et un personnage ordinaire qui mène l'enquête et qui est incarné par Michael C. Hall, l'acteur de Dexter. Toutefois, il s'agit là de la toute première série produite pour la chaîne C8. C'est d'ailleurs indiqué au générique, une fiction originale C8.
Voilà, il y a très peu de chaînes de la TNT qui produisent des fictions originales. C'est tout l'enjeu de ce papier ce matin.
Très, très peu. Ouais. Souvenez-vous, en 2005, on a gagné 20 chaînes gratuites, dont Energy 12, W9 et France 4, entre autres. Parallèlement, la popularité des séries explose enfin en France. Et naïvement, on pouvait s'attendre à une explosion de la production grâce à ces nouveaux diffuseurs. Donc, je suis allé voir les chiffres du CNC. À peine 20% d'augmentation du nombre d'heures de fiction depuis cette époque. Et ce n'est même pas dû à la TNT, puisque c'est aussi à la même période que France 3 a lancé Plus belle la vie et que Canal+ a démarré sa production de séries.
Alors, déception côté volume, mais côté qualité, ça donne quoi? Des bonnes surprises?
Eh bien, c'est encore pire. Hier, Sonia, certes, il y a eu plusieurs shortcoms, donc des formats courts comiques, ouais. Mais les titres ne vous disent probablement rien. Il y a eu Roxane ou la vue sexuelle de ma pote sur Chérie 25, VDM, vie de merde sur NT1, La petite histoire de France sur W9. En fait, la seule qui s'est taillée une popularité, c'était Soda, grâce à Kev Adams, c'était sur W9, sauf que la première saison avait été lancée sur M6.
Bon, et pour de la vraie série avec des épisodes d'une longueur normale?
Eh bien, la première qui a dégainé, c'était Energy 12. Elle y était obligée à l'époque. Chaque groupe a des quotas d'investissement à remplir. Et en 2010, ça donne la série L'été où tout a basculé.
C'est l'histoire de cinq amis, unis comme les cinq doigts de la main. Partis à la conquête de Marrakech, ils doivent organiser la soirée de l'année pour un mystérieux homme d'affaires. L'été où tout a basculé, la première fiction créée pour Energy 12.
C'est donc bien indiqué dans la bande-annonce, la première fiction créée pour Energy 12, en fait, c'est une sous-saga de l'été avec Tonya Kinsinger et Magloire.
Tonya Kinsinger, c'est l'actrice de
Sous le Soleil. Et Magloire qui était l'ancien comparse de Michael Youn. Ça n'a duré que 4 épisodes. Energy 12 a néanmoins remis le couvert 4 ans plus tard avec Dreams, un rêve de vie. Ah. Une fiction déplorable dans les coulisses d'un télécrochet. On y retrouve encore Tonya Kinsinger aux côtés de Magali Vahey, l'ancienne gagnante de la Starac. Car Energy 12 est en fait spécialisée dans le recyclage des candidats télé-réalité.
Oui,
avec ensuite I Am Noor et Caroline Receveur dans la série Hollywood Girls, une fiction mais avec des dialogues improvisés.
C'est-à-dire ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'on leur donnait une situation, c'est à eux d'improviser les dialogues.
D'accord.
Et puis ensuite, la chaîne Chéri 25, qui fait également partie du groupe Energy, a utilisé un ex-candidat de Koh-Lanta pour Dos au mur, une série policière qui a malheureusement dormi sur une étagère pendant 2 ans, tant le résultat était vraiment médiocre et cheap. C'est tout le problème. Pour faire une fiction, il faut beaucoup d'argent pour être au niveau.
Et sur France 4, sur la chaîne de service public ?
Alors, France 4 a d'abord récupéré les nombreux fans de l'excellente série de super-héros HeroCorp, dont les premières saisons avaient en fait été produites pour Comédie sur le câble.
Voilà, ça c'est une série de super-héros française. Hein,
française, humoristique, faite par Simon Astier, vraiment très très bonne. France 4 ensuite fait seulement 2 séries longues, d'abord Deadland de François Descraques et surtout l'excellente Loin de chez nous.
Formidable, c'était formidable.
Formidable l'histoire de soldats français en Afghanistan. Mais en fait, France 4, pour son public jeune et connecté, a préféré investir sur Internet avec une plateforme web pour des web-séries qui s'appelle Studio 4, parce que là aussi, c'est quand même moins cher.
Bon, alors, qu'est-ce que C8 vient faire dans cette galère ?
Eh bien, C8 est dans le giron du groupe Canal+, depuis 2012, et maintenant, la chaîne veut faire jeu égal avec les chaînes historiques, puisque sur une grande chaîne, la fiction est un marqueur majeur. Or, C8 a d'abord commencé par rediffuser les séries originales de Canal, comme Engrenage, mais c'était un véritable échec d'audience. Et C8 veut donc maintenant produire ses propres séries pour son propre public. Et après Safe, ce sera la comédie Access, une série co-créée par l'humoriste Ahmed Silla, qui en est aussi la vedette. Et c'est l'histoire d'un jeune acteur qui intègre une émission de télé.
Donc je vais toujours faire le même genre de rôle, quoi.
Quand ça, le même genre de rôle ?
Bah, je vais toujours faire le noir.
Attends, t'insinues quoi, là ? Tu vas quand même pas nous faire le coup du racisme, j'espère ?
D'autant que, petite précision, tu le sais peut-être pas, mais ma femme est d'origine sénégalaise.
Ah ça, j'adore ça. Eh, je suis pas raciste, hein, mon chien est noir.
Et franchement, ça sent le vécu.
C'est ça. Voilà, en attendant, c'est Safe, c'est ce soir. C'est sur C8, c'est du polar.
C'est du polar classique, mais efficace.
Efficace, voilà, un peu bateau, mais efficace. Merci Romain.
L'Instant M, l'actualité des médias, sur France Inter.
Voilà, ça c'est le générique de Lois et Clark, la grande série dont tout le monde se souvient, populaire sur ABC avec Dean Cain et Terry Hatcher. Non, Dean Cain, on disait
Dean
ça.
Cain.
Dean Cain, c'est ça.
Et
c'était
Terry Hatcher qu'on a retrouvé dans Desperate Housewives ensuite.
Voilà, c'était Lois et Clark, c'était les années 90 aux États-Unis. Vous êtes avec nous, Xavier Fournier, toujours grand spécialiste, grand amoureux et grand amateur de Superman. Pourquoi on a tant de mal à dater l'acte de naissance de Superman. Nous, on a eu du mal à trouver la bonne date pour organiser cette émission. Il y a débat.
Parce qu'à l'époque, les comics étaient antidatés, c'est-à-dire que comme c'était une littérature pour les kiosques, mais vraiment fond de kiosque, les éditeurs de BD s'étaient dit que pour rester plus longtemps en vente, on allait tricher sur la date, et donc on allait mettre des dates qui étaient antidatées, parfois de plus d'un trimestre, histoire que au moment de relever les revues, le kiosquier se dise « bah non, celui-là est toujours valable ».
Voilà, donc juin 1938, date officielle, mais en réalité, il est né un petit peu avant ce monsieur de 80 ans. Il faut aussi raconter que, avant cette hésitation sur l'acte de naissance, en fait, l'émergence et l'arrivée sur papier imprimé de Superman, elle a été longue, elle a été très laborieuse pour qu'il puisse voir le jour.
Bah d'abord parce que les garçons, c'est des adolescents hein, qu'ont créé Superman, Siegel et Shuster, sont partis sur un concept très différent, un type complètement fou qui recevait des pouvoirs surhumains et qui du coup voulait conquérir la Terre.
Ouais.
Donc c'était l'exact opposé moral du Superman qu'on connaît. Et ils ont promené ça pendant 5 ans, 33 à 38, avant de trouver un débouché. Puis à chaque fois, il a fallu essayer d'amadouer un éditeur en changeant un petit truc. Donc finalement, ils en sont arrivés à cet éditeur-là. Et la crainte des éditeurs de l'époque, c'était de se dire bah oui, mais un type qui soulève des voitures, personne va nous croire, on va trouver ça ridicule, on va être la risée du marché.
Alors, les créateurs de Superman sont des juifs issus d'Europe de l'Est, comme une grande partie des dessinateurs et des concepteurs de bandes dessinées aux États-Unis à l'époque, et comme beaucoup de ceux qui ont présidé aux destinées de Batman, de Hulk, de X-Men, des 4 fantastiques de Spider-Man. D'ailleurs, Superman va un temps hein, dans un des comics ferraillé contre les nazis. Quelle est l'empreinte de cette histoire-là dans la naissance de Superman, Xavier Fournier ?
Alors, si vous avez en mémoire l'origine de Superman classique, c'est-à-dire que ça se passe sur une autre planète et qui est condamné, et le père le met dans un petit vaisseau qui l'emmène sur Terre, et ben finalement, quand on repasse la scène, on se rend compte que ce passage-là est fortement inspiré de l'enfance de Moïse.
Ah oui, d'accord. On met dans un petit panier et qu'on fait glisser sur le Nil, c'est ça ?
Si on décide que si on remplace le berceau de Moïse par une fusée, vous avez la naissance et l'enfance de Superman. Il y a plein de choses un peu, d'ailleurs, très intéressantes parce que, comme je disais tout à l'heure, ce sont des adolescents, donc ils n'ont pas totalement processé, ils n'ont pas totalement mis de filtre à leurs histoires. C'est plein de choses qu'ils ont entendues par-ci, par-là, qu'ils ont rajoutées dans ces récits-là. Et du coup, c'est un peu comme un millefeuille, on trouve plein
Alors après, on a voulu voir aussi un immense symbole dans Superman né en 38, c'est-à-dire la nécessité d'un héros capable de protéger le peuple juif contre les forces obscures, évidemment, mais après-guerre aussi, le besoin d'une réparation peut-être fantasmatique après l'extermination des juifs d'Europe. Et pourtant, les super-héros sont des héros totalement laïcs, Xavier Fournier.
Tout à fait. D'abord parce que il y a comme une sorte de magma qui correspond d'ailleurs à cette intégration américaine. Hein. On vous demande pas qui vous étiez avant d'arriver au pays. On demande comment vous participez au pays. Superman, c'est en plus lui-même un immigré. Par la force des choses,
c'est un kryptonien qui
a été recueilli par des fermiers et qui donc c'est totalement
John et Martha Clark. Donc il a été placé à l'orphelinat à Smallville, puis il a été adopté par la famille Kent. Voilà, je voudrais vous faire entendre Superman a grandi, il a pris le nom justement de Monsieur et Madame Kent, il est appelé Clark Kent et il va devenir journaliste. Alors moi qui anime une émission média, j'aimerais beaucoup faire une interview de Superman, journaliste, son arrivée au Daily Planet.
Loïs, je vous confie notre ami Kent. Montrez-lui les bureaux et présentez-le à ses camarades. Il a été engagé comme reporter. Il s'occupera des faits divers.
Des faits divers ? C'est mon boulot, ça !
Loïs, Clark Kent semble être un gentil reporter bien élevé, mais il est plus que ça. Non seulement il sait se conduire envers son rédacteur en chef avec respect et déférence, non seulement il écrit dans un style dynamique et percutant, mais je n'ai jamais vu encore dans toute ma carrière quelqu'un qui tape aussi vite à la machine.
Tenez, vous oubliez mon papier.
Xavier Fournier avec nous depuis Lyon, depuis les bureaux d'Inter de Lyon. On va peut-être pas s'étendre de trop sur les pouvoirs de Superman qui ont été beaucoup, beaucoup commentés. En revanche, le Superman journaliste, on en parle assez rarement. Comment est-il arrivé au Daily Planet ?
Dans le premier épisode, en fait, Superman, qui est déjà dans la ville fictive de Metropolis, se dit que ça serait une bonne idée d'intégrer une rédaction de manière à être tenu au courant des faits divers. C'est-à-dire que s'il rentre dans un journal, il saura finalement ce qui se passe comme crime dans la ville.
C'est ça.
Mais il n'a pas fait de formation. C'est-à-dire qu'un jour, il décide de devenir journaliste. Et en gros, il réussit à avoir cette place-là parce qu'il propose une interview de Superman. Et forcément, il est très bien placé pour avoir cette interview.
Alors,
ce qui est complètement dégueulasse par rapport à Lois Lane, qui était, tout à l'heure, vous disiez que c'était dans l'introduction, vous disiez que c'était une photographe. Au contraire, c'est la grande reporter du journal et elle est obligée de bosser pour avoir ses scoops.
Ah oui, mais moi, je la croyais photographe, Lois Lane.
Non, c'est Jimmy Olsen, le photographe.
C'est Jimmy Olsen, c'est le petit gars, évidemment. C'est le petit rouquin, évidemment. Évidemment, je me suis trompée. Alors, où on en est de la déontologie journalistique de Clark Kent, Xavier Fournier ? Parce qu'on voit bien qu'il crée sa propre actualité, il crée des événements et ensuite il les couvre journalistiquement. C'est un peu limite.
C'est propre finalement à beaucoup de super-héros journalistes. Hein. Vous avez un peu ça avec Spider-Man qui est photographe, qui prend les photos de ses propres exploits. Et c'est vrai qu'en général, ces journalistes-là, photographes ou reporters, les trois quarts de leurs activités, c'est faire des articles sur eux-mêmes.
Voire
enquêter pour essayer de se démasquer. Donc effectivement, ils ont un filon et du coup, on se demande bien quelle expérience professionnelle aurait pu avoir Clark Kent, si ce n'est que forcément, il a des dons surhumains qui, à ce moment-là, rejoignent sa profession. Il a une super ouïe, une vision à rayon X et forcément aucun secret de la mairie, de l'hôtel de ville, des criminels de Métropolis lui échappe.
C'est ça, exactement. Par ailleurs, c'est aussi un prétexte, c'est-à-dire que ça lui permet d'être absent en permanence, puisqu'il est supposé être en reportage.
Tout à fait. Il est censé de temps en temps être à l'étranger et puis pendant ce temps, il patrouille dans Metropolis.
Je vous fais écouter donc la première interview que Superman, alias Clark Kent, va donner à Lois Lane. Elle est déjà totalement amoureuse de lui.
Je vous sers un verre de vin ?
Non, merci. Quand je vole, je ne bois pas.
Ça ne vous fait rien de commencer l'interview ? Vous êtes marié ?
Non, je suis célibataire.
Est-ce que vous avez une amie ?
Pour l'instant, non, mais si ça m'arrivait, vous seriez la première à la prendre.
Et est-ce qu'on peut dire que, du point de vue physique, vos fonctions sont normales ?
Je n'ai pas très bien saisi.
En termes plus délicats, est-ce que vous mangez ?
Oui. Oui, je mange. Comme tout le monde.
Est-ce que vous mangez ? Bah tiens. Et vous aurez peut-être reconnu la voix de Pierre Arditi qui doublait à l'époque le personnage de Superman. Xavier Fournier, il a évolué Clark Kent au fur et à mesure de son exercice de journaliste. Il a été présentateur télé et puis il est devenu aussi beaucoup moins timide avant de claquer la porte avec fracas de son journal.
Alors en fait, il commence dans les BD d'origine, pas du tout timide, au contraire, c'est vraiment un type...
beaucoup moins falot que dans la série et que dans le film.
Les deux, trois premières années, en fait, tout ce qui précède la Seconde Guerre mondiale, on a un Superman qui est, il y a un Clark Kent, beaucoup plus décidé à pas faire de concessions, à combattre le crime, à combattre la mairie quand il y a des questions sociales qui vont pas. Et ça se retrouve même dans ses relations avec Lois Lane, c'est-à-dire que l'alchimie est très différente. Lui, il est sous son nez, il y a une alchimie entre les deux, et lui décide qu'elle sera digne de lui quand elle l'aura démasqué.
D'accord.
Ça, c'est ce rapport-là. Il dit, voilà, il n'attend que ça. Et finalement, ça va s'inverser au fur et à mesure qu'on rentre dans les années 40, puis surtout dans les années 50, où là, rentre une espèce de comédie romantique, où Superman n'a plus du tout envie d'être démasqué, parce qu'il ne veut pas épouser Lois Lane, parce qu'il se dit qu'elle serait trop en danger avec lui. Ce qui est complètement démenti par les faits, parce que Lois Lane passe son temps à être kidnappée, enlevée, menacé et donc de toute manière sa vie est mise en danger parce qu'elle est une grande reporter.
Alors en 2012, je vous l'ai dit, donc Clark Kent claque la porte du Daily Planet après une engueulade fracassante avec le PDG du conglomérat qui a racheté le journal. Je vous cite les bulles de Superman dans le civil. La vérité, c'est que le business de l'information, c'est devenu l'information. Ayant grandi à Smallville, j'ai cru que le journalisme était un idéal aussi valable et important qu'être policier, pompier, professeur ou docteur. Mais les faits ont été remplacés par les opinions. L'information a été remplacée par le divertissement. 2012, et c'est signé Superman.
Ben oui, mais après, tous les journaux ne sont pas égaux devant la déontologie. Et peut-être que le journal qu'a quitté Superman le décevait sur ce truc-là. Mais en fait, la vérité, c'est qu'à ce moment-là, l'éditeur de Superman, DC Comics, décide de tabler pas mal de choses sur le numérique et se dit qu'il faut mettre à jour Clark Kent. Et au lieu d'en faire un journaliste, on va en faire un blogueur.
C'est génial.
Et donc, on va enlever sa célèbre veste bleue, sa cravate, et on va lui mettre un pull et on va l'envoyer faire... tenir un blog, et ça va tenir à peu près un an et demi avant qu'on revienne en arrière et qu'on se dise finalement qu'il n'y a pas mieux que le vintage, et qu'au contraire, ils se disent que... Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une inversion du truc, c'est qu'à un moment, Superman revient vers le journalisme papier, et puis c'est Lois Lane qui part du côté du numérique et qui s'égare complètement dans des choix déontologiques pas du tout clairs.
Merci beaucoup Xavier Fournier, l'auteur de Super-Héros, une histoire française. Il y a une tonne d'actu autour des 80 ans de Superman, c'est la fin de l'émission. Et vous savez quoi, Xavier Fournier, comme vous n'êtes pas avec nous, vous ne pouvez pas voir Ali Rebéi qui a enfilé un t-shirt, non pas Superman, mais Batman. Il a le Joker.